Ici, dans le rétro, l'intégrale, Déborah Grunewald.
Salut à tous, dans le rétro, nouvel épisode, nouvelle balade, nouvel invité. Chaque semaine, on embarque pour un voyage dans le temps. On remonte le fil de la vie et de la carrière d'un invité. Aujourd'hui, nous sommes avec un chanteur au grand cœur, un artiste qui a construit sa vie avec les mots. Des mots doux, des mots vrais, des mots jamais démodés, avec des musiques remises au goût du jour sur l'album Revolver. Mon invité aujourd'hui, Marc Lavoine, passé, présent, futur. C'est parti, je vous embarque pour un voyage dans le temps. Bonjour mon petit rat.
Bonjour, ça va ?
Ça va et vous ? On parle pas la bouche pleine.
Je suis une avalée et je vous réponds quand même parce que... Voilà, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Je vous laisse déguster votre petit café, vos petites madeleines.
Petite madeleine.
Alors Marc Lavoine, mon petit rat, c'est comme ça que vous appelez parfois votre maman. Votre maman qui vous donnait des noms d'animaux en fonction du sentiment qu'elle devinait en vous à un instant T. Ça pouvait être mon petit rat, mon petit chat. Je vous appelle comment sinon aujourd'hui ? Mon lapin, mon poussin.
Mon rat, c'est bien. Mon petit rat, c'est bien.
Ou mon cochon.
Ah non, mon cochon, c'est pas pareil.
Je peux vous appeler ma biche aussi, ou ma gazelle.
Oui. Mon chameau. Vous m'appelez pas. C'est le surnom que vous voulez.
Marc Lavoine, 40 ans se sont écoulés depuis votre premier album. Pour l'occasion, sort l'album Revolver, sur lequel on a pu découvrir des inédits.
Hollywood. Si ma mémoire a des trous, je me souviendrai de vous.
Pourrais-je dire encore je t'aime? Pourrais-je dire encore je t'aime? Pourrais-je dire encore je t'aime?
Et puis sur cet album, il y a aussi des tubes.
Je ne veux qu'elle, toi mon amour, toi qui as le cœur, mon amour, est-ce que tu m'aimes toujours, pour toujours? Comment fait-on l'amour si jamais, si j'ai tout oublié? Quand tu m'as oublié.
Qu'est-ce qui a changé là-dedans ?
Bah rien. Elles n'ont pas vieilli. Oh non.
Mais tout a été réorchestré.
Ah bah oui, on est allé à Sofia. On est allé à Sofia en Bulgarie. Vous savez à quoi le mystère des voix bulgares doit leur son ?
Non.
Au yaourt.
Je sens qu'on va se marrer dans cette émission.
Oui, on va rire.
Marc Lavoine, vous dites « Je suis heureux de faire un disque sans tricher et sans être à côté de ma vie ». Est-ce que par le passé, vous avez déjà triché ?
Jamais.
C'est vrai ?
Non, alors, il y a un truc, j'ai pas été très courageux dans ma vie personnelle. J'ai été souvent lâche, j'ai souvent dit oui quand je voulais dire non. Et puis bon, ça, on le regrette un jour, de toute façon. Ce genre de poussière sous le tapis se suicide toujours. Dans le travail, je suis incapable de tricher. Quand on m'a dit de pas faire telle chanson, de pas faire celle-ci, de pas faire ça à la France, de pas faire les yeux verts, ou qu'est-ce que t'es belle, j'ai dit non, c'est ça que je veux faire. J'ai toujours été fidèle à ce que ma mère m'avait donné, à ce que mon père m'avait offert, l'écriture, la poésie, j'ai toujours été fidèle à ça, parce que sinon je serais vraiment peu avouable.
Alors évidemment, sur cet album, il y est question d'amour et de bonheur. Pour vous, le bonheur existe uniquement quand il est partagé. On est mal barré quand on est un peu seul, solitaire.
Le bonheur existe, c'est vrai, il ne faut pas en avoir peur. C'est juste un bon moment à passer.
Ouais, mais il faut forcément le partager.
Ah oui, je crois qu'il faut le partager, oui, avec la personne avec qui vous êtes heureux. Parce que le bonheur tout seul, ça, c'est un orphelin. Le bonheur n'existe que par l'autre.
Sur cet album...
Le bonheur, c'est une décision à prendre.
Oh, sérieusement?
Ouais. C'est le contraire de la tristesse.
Le bonheur, une décision à prendre, c'est difficile de prendre cette décision quand on est au fond du trou, quand même.
C'est qui a dit ça ?
C'est Déborah Grunewald.
C'est Rocco Siffredi qui a dit ça.
On va pas biper, hein, vous assumez toutes vos paroles.
Non, mais c'est une connerie de dire ça. C'est une connerie. C'est une décision à prendre, sinon on se flingue. C'est vrai qu'on peut se flinguer.
Ouais, mais c'est franchement, c'est super difficile. Quand on va pas bien, se dire ouais, « Ok, aujourd'hui, je vais décider d'être heureux. »
Qui vous a dit que c'était facile ? J'ai pas dit que c'était facile, la vie n'est pas facile. Hein. Sinon, ça ne vaudrait pas la peine d'être vécu. Même la peine vaut la peine d'être vécu. Parce que c'est nous. Et si on est malheureux, c'est aussi à cause de nous, peut-être.
Sur cet album Revolver, Marc Lavoine, vous vous êtes entouré de vos amis et d'artistes qui ont compté dans votre vie. L'amitié, elle peut se nouer au travail.
Ah bah, il n'y a que ça.
Moi, on ne peut pas se faire des potes à côté ? Non, pas que le travail.
Ah si, on peut avoir des potes à côté, mais dans le travail ne souffre d'aucune ambiguïté. Vous ne pouvez pas chanter, vous ne pouvez pas partager une chanson. J'ai eu la chance d'être reconnu par Catherine Ringer. J'ai eu la chance d'être vu par elle, d'être dans ses yeux. Et de voir que dans ses yeux, ce que j'y voyais, c'était quelque chose de vrai.
Comment vous le voyez, ça? Le vrai dans le regard de l'autre?
Vous ne savez pas pourquoi, mais vous le voyez. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe, qui est vivant, il y a un parfum, il y a quelque chose d'ailleurs.
Il faut être sensible à ça.
En tout cas, elle est sensible, elle. Mmh. Et donc, elle m'a regardé avec sa sensibilité. C'est pas moi qui suis important là, à ce moment-là, c'est elle. Parce que vous existez dans le regard de l'autre. C'est là que vous existez, sinon vous n'existez plus. Si vous existez dans votre regard, que vous pensez à vous, ça n'a pas grand intérêt.
Sauf qu'on ne peut pas faire tout en fonction du regard de l'autre non plus.
Si, on peut.
Ouais, si on attend toujours le regard de l'autre ou l'approbation de l'autre...
On ne l'attend pas. C'est pas besoin de l'attendre. Il y a des regards qui vous regardent. Qui vous...
Alors là, par exemple, comment je vous regarde? Qu'est-ce que vous vous dites?
Vous vous marrez, c'est pas pareil. Non, mais je sens qu'il y a de la bienveillance, qu'il y a quelque chose de sympathique.
Marc Lavoine, ce sont des chansons dans lesquelles beaucoup peuvent se retrouver. Il y a aussi des chansons qui parlent du monde, de notre société.
C'est ça la France, le chili dans les gamelles, les purins dans les bidons. C'est ça la France, du laïeul à l'opinel, le partager les saucissons. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont. Paris, tu m'as renversé, Paris, tu m'as laissé.
C'est ça la France, le pont Mirabeau, Paris. Le monde d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vous inspire, Marc Lavoine?
C'est ces protocoles.
Qu'on va écouter dans un instant.
C'est un monde avec une résonance pénible, un monde qui se dépasse, qui ne sait plus où il va, qui ne sait plus ce qu'il fait. C'est un monde où 3% des femmes sont en prison, le reste c'est des hommes. Donc c'est une question très importante.
Est-ce que c'est un monde qui vous dépasse?
Bien sûr qu'il me dépasse. Le monde m'a toujours dépassé. Il nous dépasse tous. Le problème, c'est qu'on veut en faire sa propriété. Et que les hommes sont comme ça. Les chevaux sont sauvages, c'est terminé. Les animaux, c'est terminé. L'eau, c'est terminé. Et donc, si vous voulez, on devrait laisser un peu la place aux dames qui, elles, choisissent la vie à chaque fois.
Vous pensez que si toutes les femmes étaient au pouvoir, le monde irait mieux, se porterait mieux?
Je pense exactement ça. Je trouve que la femme est beaucoup plus forte que nous. Et donc, on devrait s'en inspirer. Là où j'ai été malin, c'est que j'ai demandé à une Anglaise de chanter avec moi.
Ouais.
Et elle n'a pas pris du tout la chanson comme ça. Elle a compris le texte que j'avais écrit, bien sûr. Et quand vous la voyez chanter, elle est heureuse de chanter. Elle n'est pas comme moi. Moi, je suis là. Oh, je suis triste. Non. Elle éclate de joie. Elle diffuse quelque chose d'incroyable. Et c'est là la réponse. C'est pour ça que j'aime bien chanter avec les filles. Parce qu'elles donnent une lumière dans Paris. Cette fille, Swann Massy, m'a emmené en Algérie. Elle m'a donné le cadeau que je pouvais faire, c'est d'aller voir l'appartement de ma tante en Algérie, d'aller voir là où elle habitait, de pouvoir chanter, de pouvoir écrire une lettre pour l'Algérie que mon père avait vécue. Et donc j'étais crédible. Chanter avec une femme, avec Catherine, avec Françoise Hardy, c'est allumer une lumière que...
Que vous n'avez pas.
Mais on ne l'a pas tout seul. On ne peut pas l'avoir tout seul. Vous savez, sinon... Je ferai la fille et je ferai le garçon. Et alors,
vous pouvez.
Oui, on peut le faire en écriture. Musset le faisait très bien. Mais le langage qui va être dit par une femme sera différent.
Sur scène, Marc Lavoine, vous proposez une expérience électro-symphonique. La tournée démarre au mois d'avril. Il y aura l'orchestre symphonique de la radio bulgare qui va vous accompagner, comme c'est le cas sur l'album.
Non, c'est un orchestre par ville, l'orchestre de l'endroit.
Okay.
Et ça, c'est une expérience formidable parce qu'on va amener le disque partout, mais ils vont jouer à leur manière. Ils vont... Voilà, il y aura un feeling différent. Et chacun d'entre nous sera au premier jour, toujours.
Mais vous les connaissez?
Non.
Ah, vous allez les découvrir?
On va se découvrir, on va répéter ensemble, bien sûr, oui.
Et si ça le fait pas?
Ça le fera. Chacun est prêt instinctivement. Ils sont prêts, ils ont choisi ce métier. Vous savez, c'est pas un métier d'être musicien, c'est pas quelque chose comme ça de mécanique. Non, c'est quelque chose que vous sentez. Quand l'orchestre prend ses violons, le violon est le prolongement du corps. Quand le piano est là, c'est le prolongement du corps de l'artiste. Moi, je suis là pour essayer de chanter. Je ne suis pas un oiseau, mais je chante.
La tournée commence au mois d'avril. C'est en France, au Luxembourg et en Belgique. On vous met toutes les dates sur la page de l'émission dans le rétro. Il y a une date aussi à la scène musicale à Paris le 17 mai. Marc Lavoine, que ce soit la tournée ou l'album, on a l'impression d'ouvrir la boîte à souvenirs avec ces titres qu'on a tous fredonnés. Regardez dans le rétro, pour vous, c'est réconfortant, c'est douloureux, c'est quoi?
Non, je ne regarde pas.
On est mal barré puisque l'émission s'appelle Dans le rétro,
oui,
et qu'on
va
regarder dans le rétro.
Je sais. Mais... Vous peut-être regardez dans mon rétro, mais moi je regarde, je vis aujourd'hui pour construire l'avenir. Donc je suis maintenant. Je suis avec vous, ça me va.
Est-ce que vous êtes bien avec moi?
Oui, je suis bien. Je suis bien en ce moment, de toute façon. C'est vrai. Pas qu'avec vous, d'ailleurs. J'arrive de plus en plus à être à l'aise, à être... voilà.
Comme aligné.
Non, aligné, non. C'est des mots que je comprends pas. Je suis là, quoi, voilà.
Vous êtes bien, vous êtes heureux.
Oui, je suis très heureux.
Ici, dans le rétro.
Allez, c'est parti, on embarque pour notre voyage dans le temps.
Vous avez vu le clip de Protocole ?
Oui, je l'ai vu sur Internet. Ouais, mais il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, en plus.
Il est sorti il y a un mois.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Faut le regarder. Simplement, c'est très étrange de voir ces choses qui se déclenchent, le feu, les inondations.
La nature.
Et puis, ce que l'homme peut faire d'insensé pour les marées noires, toutes ces choses incroyables. Mais c'est incroyable qu'on soit capable de faire ça. De tuer des animaux, de tuer des pays, de déplacer des gens, de les obliger à quitter leur maison parce qu'elle n'existe plus. C'est quand même incroyable.
Le protocole, on retrouve justement le clip sur YouTube.
D'ailleurs, c'est le mec avec qui j'avais fait C'est ça la France, avec qui j'ai fait Les Souliers Rouges, avec qui j'ai fait une dizaine de clips. Certains ont été interdits d'ailleurs, le clip de Petit à Petit Feu a été interdit parce qu'on y montrait des femmes les seins à l'air en train de fumer des cigarettes.
Et ça, c'est interdit ?
Ah oui, c'est interdit au moins de 16 ans, au moins de 18 ans. On vous demande votre code quand vous
faites ça. Ah oui, sur YouTube, quand on met les clips sur YouTube.
Sur YouTube, enfin partout où c'est diffusé. Ça passait pas la journée, ça passait que la nuit.
D'accord.
Mais c'est pas grave, il faut quand même faire les choses, même si c'est pas le moment, même si c'est pas de bon ton. Parce que on vit à une époque où sinon on dit plus rien, on fait plus rien.
C'est parti Marc Lavoine.
C'est parti mon kiki.
C'est parti mon kiki.
Oh ouais, j'adore, c'est parti mon kiki.
Bon bah c'est parti mon kiki, alors première escale en Essonne. Nous sommes au centre hospitalier de Longjumeau. Votre papa, Lucien, militant CGT et communiste, travaille à la poste. Votre maman, Micheline, est secrétaire. Est-ce que l'amour d'un père est différent de l'amour d'une mère ?
Oui, très différent. Oui. Une mère, pas la mienne en tout cas, elle était absolue. Elle était là tous les jours. Elle faisait tout. Tout ce qu'on fait à la maison, puis tout ce qu'on fait au travail. Toutes les journées en une.
Elle faisait tout ce que faisait un père aussi ?
Elle ne le disait pas ce qu'elle faisait. Elle le faisait. Mon père était un homme qui était très très intelligent, très doué. Il était très littéraire. Il parlait bien, il était... voilà. Mais il était très malheureux. Il parlait beaucoup, c'était intéressant, c'était formidable. Il m'a appris tellement de choses.
Dans le regard de Lucienne, votre maman, vous êtes un enfant heureux, à l'aise. Est-ce que ça veut dire que quand vous n'êtes plus dans son regard, vous devenez fragile ?
Je le suis devenu, mais ça s'est calmé. Elle est morte, alors je me suis dit, c'est de ma faute. Pour qui je me prends pour dire que c'est de ma faute ? Je suis vraiment un imbécile. Elle est morte parce qu'elle était usée, elle était fatiguée. Voilà.
On va revenir parce que c'est ainsi que vous commencez votre livre justement consacré à votre maman, en hommage à votre maman. Vous dites que les femmes vous regardent d'une façon différente.
Oh, c'est le regard, c'est aussi la façon d'être. C'est simplement, voilà, une femme se déplace dans l'espace de façon différente qu'un homme. Alors évidemment, elle a l'impression qu'on la regarde quand on est méchant avec elle, quand on lui fait des remarques sur sa tenue, sur la façon de s'habiller court, de s'habiller comme une femme.
C'est fou. Regarde quand on la séduit aussi.
Oui, bon, je ne trouve pas qu'il faille séduire forcément une femme, mais l'homme abîme tout ça.
Pourquoi ?
Parce que le mot séduction, par exemple, être séducteur, c'est terrifiant, c'est terrifiant.
Pourquoi c'est terrifiant ?
Ah, je trouve ça terrifiant, hein. Je trouve ça terrifiant. D'être séduisant, c'est autre chose.
Mais c'est déplacé ?
Être un séducteur ?
Ouais.
Non, c'est horrible. Être un séducteur, c'est-à-dire qu'on veut, on sait qu'on l'est, quoi. On a une conscience de séduire.
Bah oui, mais la séduction, c'est un jeu quand même. Donc effectivement, ouais. Justement, on dit qu'il y a un pouvoir de séduction. Donc oui, c'est une sorte de pouvoir, mais c'est aussi...
Oui, c'est un jeu. Moi, je trouve pas. Je trouve que c'est un faux jeu.
Vous ne séduisez pas, vous, par exemple ?
Être séduisant, c'est différent qu'être séducteur, vous voyez ?
Ouais.
La petite nuance,
elle est très importante. Alors, c'est quoi la nuance ?
La nuance, c'est qu'un séducteur, il veut vous séduire.
Il attaque, quoi.
Voilà. Moi, j'aime pas attaquer. Voilà. Donc, je préfère ni me défendre. Mais être séduisant, c'est autre chose. C'est une façon d'être qui vous dépasse, qui n'est pas consciente, qui n'est pas mesurée. Vous ne mesurez pas, ça. Il y a des gens qui ont du sexe à pile, ils ne le savent pas. Mais quand on veut être séducteur, c'est terrible. C'est terrible. Ce qu'on a dans la tête à ce moment-là, c'est peut-être, je sais pas, une revanche sur quelque chose. Enfin bon, je n'ai jamais réussi à l'être.
Mais c'est dingue ce que vous dites.
Pourquoi ?
Moi, je vous imaginais séducteur quand même.
Ah non, c'est terrible de dire ça. Parce que
ou alors, il faudrait que je dise vous êtes séduisant.
C'est mieux.
C'est mieux.
Ça va déjà mieux. Mmh. Déjà, c'est pas évident à accepter. Mais ça va mieux. C'est vrai, ça va mieux.
Le regard de votre maman, Marc Lavoine, c'est un regard doux, bienveillant, mais c'est un regard revolver.
Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu.
Enfant, donc votre maman vous dit parfois, si tu avais des revolvers à la place des yeux, je serais déjà morte. Alors moi, quand mes parents me disaient ça, c'est quand j'étais ado et en général, ils n'aimaient pas du tout ce regard assassin. Vous qui parlez de votre maman avec beaucoup de tendresse, est-ce que vous avez été dur parfois avec elle ?
Oui, un peu, sûrement. Mais quand elle me disait ça, je changeais de regard immédiatement parce que c'est pas supportable de faire du mal à sa mère. Comme c'est insupportable de faire du mal à une fille ou à une femme. Donc, quand elle me disait ça, je changeais de regard. Et quand ma mère, je l'ai vue, j'ai fait la dernière photo de ma mère. Donc, elle était morte sur la photo. Et je lui ai dit, maman, tu peux pas me faire cette photo-là.
C'est vrai.
Elle a fait l'effort de retrouver de la vie et de m'envoyer son regard que j'ai toujours en tête, parce que c'est merveilleux, mais elle était déjà morte.
Oui, elle était en vie quand même.
Oui, mais vous savez, les gens...
C'était les derniers instants.
Oui, enfin ça, c'est un principe de chez nous, parce qu'on a envie, on vit vertical, vous le voyez déjà. Elle a fini sa vie.
Ouais, mais elle est encore là quand même.
Ça n'a aucune importance qu'elle soit là ou qu'elle soit partie. Ce qui est important, c'est qu'elle soit vivante ou morte. Et là, elle était morte.
Cette photo, vous la regardez encore de temps en temps ?
Non, parce qu'il faut laisser partir les gens. Pas les faire chier trop longtemps. Ça fait 7 ans que j'ai écrit ce livre et que je l'ai laissé sur l'étagère et ça, je ne pouvais plus le garder. Et donc maintenant qu'il est sorti, je me rends compte à quel point je la retrouve.
Ce livre, c'est Quand arrivent les chevaux. Aux éditions Fayard, on va avoir l'occasion d'en parler. Elle a les yeux revolvers. Vous dites que c'est un titre qui vous a été inspiré par votre maman. Mmh. Alors moi, j'ai une autre version. La femme qui vous inspirait ce titre, c'est un amour de jeunesse. Vous écoutiez du Bowie dans sa petite chambre. Vous dormiez aussi sous les ponts avec elle. C'était la vie de bohème, mais vous n'avez jamais osé lui dire que c'était du sérieux. Alors c'est laquelle, la version
La phrase, c'est une phrase de ma mère. Après, en tant qu'auteur, vous savez, on prend à droite, on prend à gauche et on construit une histoire. Mais toutes les histoires que j'ai racontées jusqu'à présent, c'est ma mère qu'on est...
L'initiatrice.
Oui, on est même la détient, tout ce secret. Parce qu'elle est au centre de mon panthéon et c'est à elle que je veux plaire.
Marc Lavoine, on reste dans vos jeunes années, on change de décor. Nous sommes chez vous, dans le salon. Votre père joue à la guitare L'eau vive de Guy Béard. On parlait du regard de votre maman. Quel était le regard que votre père portait sur vous ?
Un regard extrêmement sympathique. Des « je t'aime » extrêmement espérants. C'était un type qui croyait que le monde allait changer de son vivant. C'était un type qui est mort en Algérie, en fait. Et il était là, vivant, en espérant que le monde allait changer. C'est un rêveur. Mais il était debout, il était bien, il se battait. Mais il était lâche aussi, comme les hommes.
Marc Lavoine, votre père est un séducteur compulsif, tourmenté, un homme volage. Ses infidélités en blessant votre mère ont dû forcément vous déchirer. Est-ce qu'on s'en veut d'aimer celui qui a fait du mal à sa maman ?
On n'a pas le choix. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime. Donc, j'ai aimé mes parents, ils m'ont dit « je t'aime ». Je ne suis pas propriétaire de ma mère ou de mon père. Ils sont ce qu'ils sont, ils se sont connus bien avant moi. Ils étaient beaux, ils étaient magnifiques. On a cru qu'ils allaient traverser l'océan tous les deux et puis le bateau s'est renversé. C'est comme ça. Mais j'ai aucun droit de les juger.
Quand on est enfant, quand on est jeune, devoir souffrir sa maman, parfois ça peut nous tourmenter. Il peut y avoir de la rancœur, il peut y avoir... Ça se contrôle pas, ça ?
Si, ça se contrôle.
Ah ouais ?
J'ai aucune rancœur, j'ai aucun ressentiment.
À aucun moment ?
Aucun ressentiment contre mon père, ni contre ma mère. Elle de se laisser faire et lui de faire. Ils étaient deux. Ils se sont démerdés comme ils ont pu. Et être père, c'est se démerder. C'est dire non quand il faut et puis se démerder le reste du temps. Être une mère, c'est porter le berceau. Donc c'est différent.
Et être enfant, c'est subir.
Non, pas subir, non.
Bah, on subit un peu, ce que... Non,
non, on se démerde. Il faut se démerder. On n'a qu'à s'en foutre.
Et quand s'en foutre.
Quand tu t'en fous...
C'est facile à dire. Quand on voit un de nos parents qui souffre, qui chiale, c'est difficile de se dire...
On n'a qu'à s'en foutre, ça ne veut pas dire qu'on est insensible.
Ah bah, c'est un peu quand même.
Non, on est sensible, mais on n'a qu'à s'en foutre. Parce que c'est pas votre problème, c'est le leur. Et on n'est pas propriétaire des problèmes de ses parents.
Mais ça va pas vous plaire ce que je vais vous dire, mais ça c'est des réflexions d'adultes, quand on a la maturité.
C'est pas une question de maturité, c'est une question de simplicité. Il faut vraiment simplifier les choses. Faut pas se mettre au mauvais endroit. J'ai pas à faire culpabiliser mon père d'être comme ci, ou ma mère d'être comme ça. Elle subissait, et lui, il faisait subir, mais lui subissait aussi. Et elle aussi faisait subir quelque chose. C'est leur problème, vie. Je ne peux pas intervenir.
Dans votre
Parce que dans la vie privée, il y a une vie intime. Cette vie intime, elle ne vous appartient pas, vous n'avez pas le droit d'y toucher. Vous ne pouvez pas dire à un homme qui boit d'arrêter de boire, c'est pas vrai. Vous ne pouvez pas dire à un type qui fait des conneries d'arrêter de faire des conneries, c'est à lui de décider.
Dans votre livre, Marc Lavoine, L'homme qui ment, vous écrivez « Quand on brise le cœur de quelqu'un, on en brise toujours plusieurs à la fois, c'est ça la vie, un magasin de porcelaine. Comment on répare un cœur brisé ?»
On ne le répare pas, c'est lui qui se répare tout seul, vous savez. On n'est pas maître de ça, on ne peut pas se réparer tout seul. On répare parce qu'on rencontre quelqu'un, on répare parce qu'il y a un enfant qui est là, qui traverse le salon, on répare parce qu'il y a la beauté du monde, il y a, voilà, la beauté du monde, c'est ça qui nous répare. Vous savez, c'est pas en analysant les choses, en disant, oh, je suis pas bien, faut... Non, si les analyses se rendaient les gens heureux, on le saurait, on serait pas sous neuroleptique toute la journée, et prendre des cachets pour aller bien, prendre des cachets pour s'endormir, etc. Donc ça veut dire que on cherche toujours des réponses en nous et on cherche toujours la faute chez les autres. C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe.
Marc Lavoine, on part maintenant à Wissous, en région parisienne.
Ici c'est Wissous,
ouais. Nous voici au 21 rue des Acacias. C'est dans cette maison que vous grandissez. Derrière la porte de la cuisine, il y a Nanette, votre tante, qui prépare le couscous. Il y a aussi votre maman, vos deux grand-mères, que des femmes. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre éducation quand on est élevé par des femmes? Que par des femmes?
À votre avis, elle s'appelle Ninette.
Ah, Ninette.
Ma tante,
ouais.
Ninette ou Toutoune. D'ailleurs,
ah,
c'est comme ça que j'appelle ma fille aussi, Toutoune. Oui, ça change. Bah, ça, enfin, je sais pas. J'ai été élevé par des femmes, donc j'en suis ravi. Et d'ailleurs, quand j'allais au poker, je me retrouvais dans la cuisine à discuter avec les filles. Et puis les autres jouaient au poker, prenaient leur bière, ils mettaient la capsule au-dessus du frigo. Et ça va, oui, ça va, ils repartaient.
Vous préférez la compagnie des femmes?
Non, j'aime pas les jeux de tueurs. J'aime pas les jeux où il faut tuer l'autre. Je suis pas motivé pour ça. J'aime pas la compétition, j'aime pas gagner. J'aime pas perdre. Je m'en fous. J'aime être moi et avancer. Me battre contre moi-même, d'accord, mais pas contre les autres.
Enfant, Marc Lavoine, vous bougez beaucoup. Vous avez un mouvement perpétuel. Vous n'êtes jamais très à l'aise. Qu'est-ce qui se passe?
Je l'ai, le mouvement, là. Vous voyez, je l'ai de temps en temps.
Ouais.
Je le
retiens. C'est quoi ce mouvement perpétuel?
Ben, c'est ça. Ça s'appelait se berliner. C'est ma mère qui avait inventé ce mot. Je me berlinais tout le temps. Je
fredonnais. C'est quoi? C'est d'en avant, en arrière,
voilà.
Se balancer, quoi, en
j'ai
gros.
Toujours un truc qui bouge.
Ah ouais?
Toujours. Et donc, je me débrouille avec ça. Je fais comme si j'étais comme un autre, mais je savais que j'étais pas tout à fait comme un autre. Alors j'allais dans le bus à côté des autistes, à côté des trisomiques, et je me sentais bien avec eux parce que j'avais les mêmes mouvements, j'avais les mêmes perturbations physiques. Si vous voulez, quand on est un peu muet et qu'on n'arrive pas à s'exprimer, voilà. Donc la poésie m'a aidé, Pierre et Leloup m'a aidé.
Mais comment on fait face au monde justement qui nous entoure à ce moment-là quand on se sent différent?
C'est pas que je me sentais différent, mais je sentais que les autres jouaient un jeu que je ne pouvais pas jouer. Moi, j'écoutais Barbara dans mon casque, ou Charles Trenet, ils écoutaient tous autre chose. Je veux dire qu'on est victime un peu de sa sentimentalité, de ce qu'on pense, de ce qu'on... Voilà, c'est...
Est-ce que vous ne vivez pas sur une autre planète?
Peut-être. Enfin, j'ai l'impression de vivre sur cette planète-là.
Ouais.
Oui, et de l'observer.
Mais
vraiment.
Même parce que quand on discute, on a l'impression que vous êtes dans votre monde aussi, qu'il y a un espèce de monde... Non, mais sérieux? Non?
C'est ce que me dit la femme que j'ai, Théron,
ah ouais?
Théron Barjot.
Mais ouais, écoutez, non, mais il y a un côté barré complètement, quoi.
Je crois pas.
Oh,
je crois pas. Enfin, je pense pas écrire des textes de barré.
Ah non,
pas...
alors là, pour le coup, non.
Mais voilà, donc faut en rester là.
Mais
c'est vrai
mais
que quand on me pose des questions, je suis pas sûr d'avoir réponse à la question que vous posez. Vous savez, les gens savent tout. Vous les regardez, ils savent. Alors ça, ils savent. Ça, je sais, c'est moi qui ai raison. Moi, je les laisse discuter entre eux, se foutre sur la gueule. J'aime pas qu'on m'engueule. J'aime pas trop qu'on pose des questions définitives. Je trouve qu'une question mérite d'être partagée.
Ça doit être galère dans votre métier, quand même, parce qu'on vous pose beaucoup de questions.
Bah, non, c'est galère dans certaines interviews.
Ouais, ça va pour l'instant.
Non, mais voilà, on nous demande de raconter des choses dont on ignore, parfois. Pourquoi elles sont là? Je veux dire, tout le monde sait. Tout le monde, je suis mais bluffé. Ça me surprend. Je regarde la télé, vous regardez n'importe quelle chaîne d'infos, de machin. Ils discutent tous, ils savent. Ils ont raison, ils savent. Et l'autre, il a tort. Ah bon? D'accord. Okay.
Oui, et puis les choses en plus évoluent. C'est-à-dire, on peut dire quelque chose de par le passé et puis finalement
exactement
changer aussi d'avis.
Exactement ce que chantait Brassens.
Ouais. On continue notre voyage, Marc Lavoine. On part en 1976 à Chilly-Mazarin. Nous voici sur les bancs du collège Les Dinchiens. Vous êtes là en quatrième, il y a Monsieur Cadet, Gérard Cadet, votre prof de lettres. Ce prof, il va changer votre vie tout simplement parce qu'il va vous intéresser aux choses, il va surtout s'intéresser à vous. Si vous aviez ce prof en face de vous, là tout de suite, qu'est-ce que vous lui diriez?
Je l'ai en face de moi, je le vois très bien. Alors je lui dis bonjour, comment vas-tu? Il va me répondre qu'il va bien, il va me dire ton vieux prof t'embrasse et je vais me souvenir de tout ce qu'on a vécu ensemble. On a vécu de cette année 76 jusqu'à maintenant une vie formidable parce que c'est lui qui m'a dit tu peux réaliser ta vie autour des mots, tu peux travailler, tu peux vraiment rêver de ça. Et j'y ai cru. De temps en temps, vous croyez en quelqu'un qui vous regarde et qui vous dit quelque chose et vous y croyez.
En fait, ce prof, il a compris comment vous fonctionniez. Est-ce que ça veut dire, en gros, que c'est au professeur de comprendre l'enfant ?
C'est un peu aux deux. Moi, évidemment, je ne pouvais pas tout comprendre, mais j'étais là et je portais une sorte d'énigme pour les gens. D'ailleurs, la professeure de l'année d'avant m'avait dit « Tu vas avoir à l'avoine, tu vois, c'est une galère, tu ne vas pas t'en sortir. » Et lui, il m'a regardé, il m'a vraiment regardé. Il regardait les gens, il regardait les enfants, il les écoutait, et il avait des choses à apprendre d'eux. Et donc, ce principe-là est intéressant.
C'est intéressant, vous dites que le professeur avait des choses à apprendre de ses élèves, alors que habituellement, on s'attend à ce que ce soit l'inverse, ce sont les élèves qui ont à apprendre des professeurs.
Oui, mais dans le principe de Gérard, c'était ça, c'était lui. Et il avait des gens nouveaux devant lui, qui étaient nouveaux tous les jours, qui changeaient, qui évoluaient. Lui, il était toujours le même, un peu changé par les élèves qu'il avait autour de lui, mais il était là. Et donc, du coup, il nous regardait, il nous comprenait, et il allait vers nous. Il ouvrait les portes qu'il fallait ouvrir pour nous. Et pas mal de gens étaient d'ailleurs très doués dans sa classe. C'était formidable de travailler avec lui.
À partir de là, Marc Lavoine, vous allez vous intéresser aux mots Verlaine, Rimbaud, Prévert, Cocteau. Un de vos textes fondateurs, c'est le Pont Mirabeau que vous avez adapté en chanson en 2001 et réadapté en 2024.
Ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau.
Le pont Mirabeau qu'on retrouve sur votre album Revolver. Le pont Mirabeau, c'est la nostalgie d'un amour passé, c'est le temps qui passe, c'est le temps destructeur. Ressasser le passé en amour, ça fait mal.
Je crois que quand on ressasse les choses, ça fait mal. Quand on est un peu abîmé par une expérience, il nous reste quand même quelque chose de beau.
Ça veut dire que vous ressassez jamais les choses ?
Non, je n'ai pas de ressentiment. Je peux expliquer les choses qui se sont passées. Il faut s'en sortir avec les choses qui se sont faites, qui se sont réalisées, qui ont réussi.
Marc Lavoine, vous êtes passionné par la poésie, la comédie, la musique. C'est à l'adolescence que vous écrivez vos premières chansons, mais il va falloir attendre 1984 pour tout déglinguer avec la chanson.
Begin avec toi, envie de begin avec toi.
Pour une Begin avec toi, puis en 1985, les yeux revolver que vous pourrez savourer aussi sur scène pendant la tournée de Marc Lavoine, notre invité aujourd'hui.
Ici, dans le rétro.
On est vachement sérieux depuis le début de l'émission.
Ouais, on est sérieux, mais vos questions sont sérieuses. Mais c'est vos questions qui sont
sérieuses.
Alors,
je sais pas, trouvez-moi une question, par exemple, qui ferait que ça vous ferait marrer. Non, qu'est-ce que je pourrais vous demander ?
Moi, je suis pas journaliste. Je suis juste là pour essayer de vous répondre à peu près aux questions que vous me posez. Et donc, voilà, mais le Parking des Anges, c'était une chanson que j'avais écrite pour Pasolini. Ça m'intéressait déjà, la question sociale de Pasolini, qui m'a suivi avec C'est ça la France, ensuite avec Paris. Et maintenant, le protocole, c'est une ligne que j'aime bien. J'aime bien la caresser, cette ligne, parce qu'elle m'intéresse. Ça m'intéresse.
Mais, voilà, mais vous êtes à nouveau sérieux. J'ai rien dit, moi. J'ai rien fait. J'ai pas posé de questions.
Vous passez le Parking des Anges. Je vous explique pourquoi je l'ai faite. Maintenant, on peut parler de films drôles, et dans ce cas-là, je serais rigolo.
Ouais, mais c'est pas le sujet de l'émission. Voilà. Donc ça veut dire que mon émission est trop sérieuse.
C'est un choix. J'ai vu des extraits de votre émission.
Ouais.
Avec des chanteurs et tout ça. On finit par se prendre au sérieux, à raconter sa vie en se prenant au sérieux, en étant là, en disant « Ouais, je suis comme ça. » L'émission est l'émission, elle est ce qu'elle est, et c'est bien d'être comme on est, parce que je pense qu'on ne peut pas être autrement.
Et puis c'est bien de se marrer aussi un peu, quoi.
J'ai pas vu beaucoup de gens se marrer dans votre
émission. Ah si, bah vous avez pas vu Les Bêtisiers. Mais c'est vrai qu'il faudrait que j'en mette un peu plus.
Non, je pense qu'il ne faut pas tricher avec sa forme.
C'est ce qui se passe.
Votre émission a du fond, a de la forme, et on se marre quand on n'en peut plus.
Ouais.
Mais il faut passer par ce moment où on est sérieux, où vous parlez de mon enfance, de ma mère, de mon père, de l'inspiration de mes chansons. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui raconte des bêtises, je ne suis pas quelqu'un qui ment. Alors c'est bien ou c'est pas bien ce que je fais.
Mais vous êtes drôle aussi, quoi.
Je suis drôle quand le sujet est drôle. Là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
Là, c'est trop sérieux.
Non, mais voilà, je me marre beaucoup. Notamment dans la vie. Et je peux très bien rire, mais par exemple, je peux vous dire que l'album a été enregistré dans un building nazi.
Ah ouais ?
Qui était collé à un building communiste. C'était d'une certaine façon drôle de se retrouver là.
Décalé, quoi, complètement.
Voilà. Donc, c'est des situations qui sont drôles.
Ouais.
Votre émission nous met dans une situation qui est un peu sérieuse. Vous parlez de ma mère, de mon père, des sentiments que ma mère avait pour mon père. Est-ce qu'il s'en voulait ? Est-ce que je leur en voulais ? Vous comprenez ? Je peux pas être drôle, là.
Ouais, bien sûr. Bien sûr.
C'est pas de votre faute.
Non.
C'est votre émission. On peut pas regretter de pas être drôle.
Mais est-ce que vous êtes bien, au moins ? Parce qu'en fait, le but de l'émission, c'est de se sentir bien.
Ça n'a rien à voir.
C'est de kiffer.
Mais être bien, je suis là, je suis avec vous. Je vous dis, je sais même pas l'heure qu'il est, je sais pas le jour qu'on est. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de parler avec vous. Ben, si j'avais la réponse à vos questions...
Bah vous l'avez quand même.
On se marrerait.
Bon, Marc Lavoine, ce sont des titres incontournables dont certains ont été revisités sur l'album Revolver, sur lequel il y a évidemment...
Je me sens pas belle quand tu parles de moi.
Qu'est-ce que t'es
ça,
belle.
Ça, ça met le sourire. Ça met le sourire.
Ah ouais. Ah,
évidemment, c'était toujours pareil. Il y a une tristesse dans cette vie.
Bah ouais, moi j'allais, du coup j'allais replomber encore derrière.
Vous
avez vu ou pas?
Mais il y a une tristesse, évidemment qu'il y a une tristesse. Mais vous savez, Catherine et moi... C'est,
Catherine
c'est,
Ringer.
Oui, il se passe quelque chose. On se marre, on est là, on se tient la main. Et on se marre de mieux
mais
en mieux.
Mais elle est barrée aussi. Hein.
Moi, je trouve pas.
Ah si.
Mais non, mais je trouve pas. Pour les gens, pour les adultes...
Attention, c'est pas un défaut. Hein. Non, moi, je trouve ça génial d'être barrée. Hein.
Pour les adultes qui disent, ah, elle est barrée. Non, elle est pas barrée. Elle est...
Mais il n'y a rien de mal hein, à être barré, moi, je trouve. Je trouve qu'au contraire, c'est une force.
Mais est-ce que c'est pas vous qui êtes barré, plutôt? Vous savez que, par exemple, on dit qu'il y a des fous. Alors, les fous, c'est qui? C'est Poutine, c'est le mec qui est dans l'hôpital psychiatrique. C'est qui, le fou? On dit qu'un fou est celui qui a perdu la raison. Moi, je crois pas. Moi, je pense qu'un fou, c'est celui qui a tout perdu, sauf la raison. Et je pense qu'elle n'est pas barrée. Je pense qu'elle est réellement sur Terre. Elle a réellement vécu ce qu'elle a vécu. Elle a écrit ce qu'elle a écrit. Elle s'est fait insulter comme elle s'est fait insulter à la télé. Elle a eu des chagrins d'amour, elle a eu un chagrin d'amour, elle a des enfants, et elle chante. Elle chante debout, elle a écrit le cancer, elle l'a mis sur les pistes de danse, elle a écrit des choses qui sont des choses extraordinaires. C'est une femme exceptionnelle. Alors, elle est barrée? Moi, je crois pas. Moi, je la reconnais comme étant une grande artiste. Alors, Michael Jackson était peut-être barré aussi, avec ses feux de plancher.
Bah, on peut parler de génie aussi, parfois, justement, de ces personnes...
Voilà, donc.
Barré, enfin, ouais. C'est pas...
Je pense que de ranger les gens dans une case comme ça, ouais. En disant lui il est barré, lui il est pas barré, je pense que ça veut pas dire grand chose. Je crois qu'il y a des gens qu'on aime parce que leur sensibilité vous touche. Et puis voilà.
Il y a la version aussi au masculin en 2019 avec Clara Luciani et un mec barré.
Voilà, ça c'est
Philippe
bien.
Catherine.
Je me sens pas beau. Quand tu parles de quoi?
C'est magnifique parce que c'est la même chanson.
Ouais, c'est pareil.
C'est génial ce qu'ils ont fait parce qu'ils l'ont fait vraiment très sérieusement. Avec de l'humour, mais c'est pas un humour surjoué. Ils la chantent sincèrement et elle chante sincèrement. Je les remercie d'avoir fait cette version. Elle m'avait appelé pour savoir si j'en étais d'accord. Bien sûr, j'étais d'accord. Parce que c'est une fille que j'adore, c'est une amie. Et puis lui aussi, je l'aime beaucoup. Et donc, il faut faire confiance aux gens barrés.
Ah bah, vous l'avez dit quand même alors.
J'ai dit pour vous faire plaisir.
Merci. Qu'est-ce que t'es belle donc, et puis qu'est-ce que t'es beau avec cette version revisitée par Clara Luciani et Philippe Catherine. La beauté physique se fane avec le temps, c'est merveilleusement illustré dans la chanson de Françoise Hardy, Mon ami la rose.
Au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle. Des fleurs de ton jardin.
C'était un petit plaisir aussi de passer
cette...
C'est
beau, quand la rythmique rentre, là. C'est magnifique.
Je sais que Françoise Hardy occupe une place importante dans votre cœur. Vous dites « Je redoute la mort, mais la vieillesse, ça me plaît beaucoup. » C'est rare d'entendre ça. La vieillesse n'est donc pas un naufrage. Et là, en fait, au moment où je pose cette question, je me dis « Ça y est, on va repartir dans un truc trop sérieux, en fait.
Bah, » C'est votre question, hein.
Oh, merde.
Non, mais c'est marrant, la vieillesse. C'est vrai que c'est sympa.
C'est rare d'entendre ça. Hein.
Bah, oui, mais c'est mieux que de mourir trop vite.
Bon, si on le voit comme ça, c'est vrai. Mais bah, sinon, voilà. Qu'est-ce que ça a de kiffant, la vieillesse?
Ah, la vieillesse, c'est un voyage. C'est-à-dire, pour aller dans la salle de bain, de votre salon, de votre chambre, avant, ça prenait une seconde, deux secondes, 10 secondes. Maintenant, ça prend 10 minutes.
Bah, et en plus, ça se fait dans la douleur.
Ça prend 10 minutes, vous avez mal. Vous la sentez passer, la douleur.
Génial.
Bah oui, c'est quand même génial de sentir cette douleur. Mais si. Jusqu'au dernier moment, c'est génial. Et puis après, il y a des gens qui pensent qu'après la mort, il y a autre chose.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi?
Ouais.
Est-ce qu'il y a autre chose? La question est posée. Je n'ai pas la réponse, comme je n'ai pas la réponse à toutes les questions que vous me posez.
Je ne vais plus oser poser aucune question.
Mais si, c'est votre travail. Vous avez travaillé, il faut absolument poser les questions.
L'amour, Marc Lavoine, vous le chantez, vous le vivez, vous le dévorez. Pourtant, vous avez un cœur d'occasion.
Je roule avec un cœur d'occasion. Lorsqu'il se pose sur ton corps, je roule avec un cœur d'occasion, mais il marche encore.
Est-ce que vous avez un garagiste ou quelqu'un qui répare votre cœur quand il est abîmé? Je suis trop fière de cette question en plus.
Elle est bien cette question, c'est vrai. Non, c'est vrai, elle est bien, elle est pas mal.
Elle est pas mal, mais elle est trop sérieuse.
Non,
elle...
mais c'est vrai qu'il y a des gens qui réparent mon cœur, oui, c'est vrai. Par exemple, mon manager répare mon cœur depuis 30 ans. Et la fidélité est un réparateur. D'ailleurs, moi, je suis chanteur pour l'âme, réparateur de cœur en panne. C'est vrai qu'il faut avoir envie de réparer l'autre. Parce que nous, parfois, on n'est plus capable de le faire, on n'a plus envie. Parfois, on a envie de quitter la vie. Ça arrive. Hein. Et il y a quelqu'un qui vous dit non, 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 tu peux continuer, tu vas y arriver.
Faut trouver.
Et j'aimerais bien être celui-là pour mon manager ou pour la femme que j'aime ou pour mes enfants. J'aimerais être celui qui dit non, tu vas y arriver.
Bah, vous l'êtes, non?
Ouais, j'espère.
Vous pouvez avoir ce rôle-là aussi, mais faut trouver les mots.
Peut-être,
après,
vous savez, peut-être on rate pas, on réussit pas tout. Peut-être que j'ai raté des moments ou des occasions. Bon, là, en ce moment, c'est l'anniversaire de ma fille unique. Et donc, je me fais du souci, je me demande comment je vais lui parler ce soir, de quoi elle a besoin, qu'est-ce que je peux faire pour ses besoins, qu'est-ce que je dois pas faire. Qu'elle ait vraiment envie de résoudre son problème. C'est pas à moi de le résoudre, c'est à moi d'éclairer un peu le chemin, de lui donner une clé ou deux, un encouragement, lui dire que je l'aime. C'est-à-dire que tout ça n'a pas d'importance, qu'il faut suivre son petit chemin.
Marc Lavoine, aujourd'hui, on revient sur une partie de votre carrière musicale. Il y a eu le cinéma et puis vous avez aussi écrit des livres. Toi et moi, on s'appelle par nos prénoms en 2011, 2015, L'homme qui ment.
C'est pas moi qui écris, toi et moi. C'était donc les jeunes autistes qui écrivaient. Je voulais signaler que Howard Buten est mort. J'ai travaillé avec lui pendant pas mal d'années. Ça n'a pas fait grand-chose, ça n'a pas fait beaucoup de bruit, ça... Ça a fait deux lignes, quoi, mais c'est un homme immense, c'était un clown extraordinaire.
C'était le journal du Papotin, c'est ça?
Voilà. Et Howard s'en occupait, il s'occupait de garçons merveilleux. Et donc, il avait dit à un garçon, je ne veux plus travailler avec toi parce que tu te suicides tout le temps. Mais non, tu peux pas ne pas travailler avec moi. Howard lui dit, alors tu ne te suicides plus. Je peux pas ne pas me suicider, c'est pas possible. Ah, il faut que tu te débrouilles. Tu sais quoi? Tu me prends et tu me mets dans ta poche. Et dès que t'as un problème, tu mets ta main sur moi. Ça a marché. Et maintenant, Howard est mort et c'est bien triste parce que la Terre sans Howard, c'est quand même différent. Pardon, c'est pas drôle.
Non, mais c'était important d'en parler aussi, mais surtout qu'on n'en a pas beaucoup parlé, on n'en a pas entendu beaucoup parler. 2015, vous écrivez L'homme qui ment, téléportation. Nous sommes dans une librairie. Là, sur l'étalage, il y a « Quand arrivent les chevaux », un ouvrage hommage à votre maman, un livre qui explore le deuil et l'imaginaire. Comment on fait le deuil de sa mère?
On n'a pas à le faire. Faut pas se tromper de personne, c'est elle qui est morte. Elle était fatiguée, elle n'en pouvait plus. Parce que le deuil, c'est perdre. Là, maintenant, depuis qu'il est sorti, le livre, je me sens bien. Je peux la retrouver chaque fois que je marche quelque part. Elle est là. Et elle sait que je suis bien. Je pense qu'elle est bien aussi. Je ne sais pas, mais je pense.
Quand vous dites « elle sait que je suis bien », comment elle peut le savoir que vous êtes bien ?
Je pense qu'elle le sait. Ouais. En tout cas, moi, je le sais. Et comme son âme est en moi, je sais que je vais bien. Je vais bien grâce à elle. Je vais bien aussi un peu grâce à quelqu'un d'autre. Et c'est toujours
grâce à qui ?
Nanani. Nanani.
Nanani. Je me le demande.
Oui, on se le demande bien. Et donc, voilà, il y a quelque chose qui existe, qui vit au fond de nous sans qu'on ait besoin de lui dire de vivre sa vie tout seul. Et moi, j'aime ça. J'aime entendre la forêt qui pousse alors qu'on entend plutôt un arbre qui tombe.
Vous êtes
c'est
optimiste.
Pas mal, ça.
Ouais, ça allait bien.
Elle est pas moi.
Ah, bah ouais, bah voilà, super. Elle est de qui?
Elle est de qui? Elle est de qui? C'est un proverbe africain.
D'accord.
On entend un arbre.
Bah,
qui
vous me décevez.
On entend un arbre qui tombe, mais on n'entend pas la forêt qui pousse.
Je me dis, waouh, ouais. Marc Lavoine.
Non, mais c'est un proverbe, oui, parce que je m'intéresse à l'autre, je m'intéresse au monde. C'est un proverbe révolutionnaire. Ah, madame, absolument.
Tout à fait. En préambule, vous écrivez dans votre livre, « Avant de vous plonger dans la lecture du roman qui rend hommage à la femme merveilleuse que fut ma mère, que je remercie de l'héritage considérable qu'elle m'a laissé et que je ne cesse de découvrir tous les jours de ma vie, je voulais vous dire pourquoi j'ai écrit ce livre. Je me sens responsable de sa mort. » Ce sentiment de culpabilité vient du fait que vous n'avez pas voulu la changer de clinique pour la remettre aux mains du docteur Gian, qu'il avait sauvé déjà plusieurs fois. Vous dites que c'est par manque de courage. Je n'ai pas eu le cran, je n'ai pas voulu faire le chieur.
C'est vrai. Mais bon, je me prends très au sérieux quand je dis ça. C'est-à-dire que qui je suis pour penser que je vais avoir le droit de changer la vie des gens, décision à sa place.
Parce qu'il y a de la culpabilité.
Et voilà, et ben cette culpabilité est partie. Vous voyez? Ça va et ça s'en va. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais qu'elle n'est pas morte par ma faute. Mais ça m'a permis d'écrire ce livre.
Pourtant, c'est ce que vous pensiez.
C'est ce que je pensais. Maintenant, je ne pense plus que quand le livre est sorti. Vous comprenez?
Mais qu'est-ce qui a fait basculer le délire, là?
J'ai laissé ce livre mourir sur mon bureau pendant 7 ans. Il a pris du café sur la gueule, il a pris des peintures, machin. Je refusais de le lire. Et 7 ans plus tard, je le lis et on me dit, tu vas le sortir. Et en le sortant, je me suis libéré d'un... d'un poids immense, quoi. C'est-à-dire que il faut sortir les choses, il faut faire ce qu'on a dans le ventre, parce que c'est à ce moment-là que vous comprenez. Et aujourd'hui, ouais, je me sens bien.
Ouais, mais vous, vous écrivez. Mais alors, pour n'importe qui, comment on sort les choses, quoi ?
Ben, y a des lecteurs. Vous savez, l'art, par exemple, faire une sculpture, il y a celui qui fait, puis il y a les regardants. Il y a celui qui l'achète, parce qu'il a de l'argent. Il y a ceux qui regardent. Moi, quand je vais voir la Vénus de Milo, ça me fait du bien.
Ça veut dire que peut-être vos lecteurs se sont retrouvés dans vos mots aussi, et que ça a pu aussi
pas,
aider.
Mes lecteurs, je ne sais pas combien ils sont. Ça vient de sortir. Je ne sais pas s'ils vont le lire.
Marc Lavoine, vous dites que votre maman vous a montré comment tenir l'équilibre dans un monde déséquilibré. Comment on fait pour aller bien dans un monde qui va mal ?
Il faut aimer. Aimer, c'est la chose la plus importante. Aimer, c'est ce qui compte. C'est la seule chose qui compte entre la vie et la mort. Dont on ignore ce que c'est, d'ailleurs.
Mais c'est important d'être aimé en retour aussi, non ? Surtout vous. Non, mais vous, ça y est, on va repartir dans un délire sérieux. Non, mais en plus, vous qui êtes qui attachez de l'importance au partage, au regard de l'autre.
Je pense que plus vous pensez à l'autre, plus vous aimez l'autre, plus vous avez des chances d'être aimé. Mais il ne faut pas commencer à dire « tu m'aimes pas assez, tu m'aimes moins ». Non, ne pensez pas comme ça. Voilà, il faut s'en foutre, il faut aimer.
Marc Lavoine, on termine ce voyage en musique.
C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat.
Le Dormeur du Val, interprété par Serge Reggiani, poème de Rimbaud, un poème qui a compté dans votre vie. Rimbaud disait « Le monde a soif d'amour, tu viendras l'apaiser ». Moi je dis, on peut terminer là-dessus.
C'est magnifique, terminons là-dessus.
Ça vous correspond grave,
mais
en plus.
Terminons sur le Dormeur du Val, mais pas cette version-là, la version sur le disque de Canetti. L'arrangement est différent. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des rayons d'argent. C'est merveilleux, parce que c'est le poème parfait. On ne parle que de la vie tout le long de la poésie, et la mort arrive à la fin, avec ses deux trous rouges au côté droit.
Marc Lavoine, je vais terminer cette émission avec une blague.
D'accord.
En fait, j'en ai pas.
C'est drôle, ça.
Elle est pas mal.
Elle est bien.
Total impro. Revolver, c'est un album anniversaire qui célèbre la nostalgie avec enthousiasme. Ce sont des souvenirs qui nous bercent et nous entraînent. C'est la musique enchanteresse. C'est la musique enchanteresse de l'orchestre. J'ai bugué, vous voyez. Pourtant, j'essaie de m'appliquer, d'articuler.
Et c'est moi qui suis barré. On rêve.
Ce sont des souvenirs qui nous bercent et nous entraînent. C'est la musique enchanteresse de l'orchestre symphonique de la radio bulgare sur des titres qui ont marqué nos vies. Et c'est aussi une expérience à découvrir sur scène à partir du mois d'avril, en tournée et à la scène musicale à Paris le
14.
17 mai. Le livre aussi, Quand arrivent les chevaux, aux éditions Fayard. Dans le rétro, le podcast, c'est sur l'application Radio France. Passez un super bon week-end. Prenez soin de vous. Salut. Merci Marc Lavoine.
Merci mademoiselle. Merci beaucoup.